autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, pour cette série de rediffusions estivales consacrée aux grandes voix disparues de la recherche. Aujourd'hui, la philosophe et psychanalyste Anne Dufour-Mantel, auteure de La puissance de la douceur, de l'intelligence des rêves, mais aussi de La vocation prophétique de la philosophie et de L'éloge du risque. Sa vie et son œuvre se confondent en une absolue et presque troublante cohérence. Disparue dans des circonstances tragique en août 2017, en portant secours à des enfants de 10 ans qui étaient en train de se noyer sur une plage du Var, Anne Dufour-Mantel a succombé à un arrêt cardiaque. « La vie est un risque », écrivait-elle. « Un risque à prendre pour être vraiment vivant ». La vie d'Anne Dufour-Mantel s'est arrêtée pour en sauver d'autres. À l'âge de 53 ans, tous ceux qui ont eu la chance de la croiser s'en souviennent. L'ami, la mort, Le Fils, un très beau livre publié par Jean-Philippe Deminck, le père d'un des enfants qu'elle a sauvé, lui rend un vibrant hommage. Quant à nous, nous vous proposons de réécouter l'entretien que cette femme remarquable nous avait accordé à la parution de son dernier essai, « Puissance de la douceur ». Comme le disait le stoïcien Marc Aurèle, « La douceur est invincible ». Hommage à l'invincible Anne Dufour-Mantel avec cette rediffusion du 4 octobre 2013 autour de la question « Quelle puissance dans la douceur ?» Bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous avez été, vous êtes auteur d'essais remarqués, dont La vocation prophétique de la philosophie, qui vous a valu le prix de philosophie de l'Académie française. Depuis, vous avez publié de nombreux essais qui touchent chaque fois au cœur, En cas d'amour, entre autres, Éloge du risque, Intelligence du rêve. Et le dernier, donc Puissance de la douceur, aux éditions Payot. Pourquoi la douceur, Anne Dufour-Mantel? Parce qu'on en manque?
Oui, on en manque. Et parce qu'on est, je crois, dans une époque très particulière qui masque ce manque. Et d'une part, elle manque parce qu'on est dans un moment très, très dur, matériel, psychique, spirituel, où les êtres se battent pour des conditions ad minima d'existence décente, beaucoup plus qu'on le croit ou qu'on l'imagine.
C'est ce que vous voyez,
c'est ce
aussi
que je vois,
sur votre
c'est ce que j'entends, c'est ce que je trouve aussi en tant que citoyenne. Et je trouve que les conditions se durcissent d'année en année, de jour en jour. Tout ça baignant, et ça c'est nouveau parce qu'on peut dire qu'il y a eu d'autres époques avec des moments très durs, certes, sans parler des guerres, mais même des épidémies, d'autres moments. Mais là, la particularité, c'est que tout ça baigne dans un sentimentalisme qui recouvre cette réalité d'une sorte de fausse approbation démocratico-légale. Et on devrait se réjouir, au fond, on n'est pas si mal loti. Et c'est seriner aux êtres toute la journée que la bienveillance envers soi, envers l'autre, se faire du bien, comment trouver le bonheur, oui certes, mais comment à ce moment-là se rendre compte qu'on manque de douceur, qu'on manque de bonheur.
Autour de la question pourquoi la douceur, première piste de réflexion sonore, à la fois douce et puissante, c'est le mix de Guillaume Ploquin. Si vous prêtez l'oreille, amis auditeurs, vous y entendrez même la voix de Gandhi.
Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Mais aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé, c'est la plus belle maman sur la plus belle planète.
Une chanson douce que me chantait ma maman.
Ce week-end, c'est la douceur qui aura dominé très largement.
J'ai l'impression qu'au contraire, dans la phase actuelle, des sociétés qui sont en pointe ont basé leur recherche d'efficacité sur la compétition.
Pour baby, pour maman, carré douceur, lotus.
Je vois pas pourquoi il y aurait pas eu de douceur dans ce monde-là. Dans le monde animal, on en observe. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi, chez les primates, nos ancêtres, il n'y aurait pas eu cette dimension-là.
I regard myself. Moi, je considère comme un soldat de la paix. I have never made.
Je n'ai jamais dit que les masses de linge, si c'était nécessaire, recourraient à la violence.
Il y a souvent eu en fait pas mal d'ambiguïté sur ce qu'était cette non-violence gandhienne, qui n'est pas la passivité, mais qui est une forme de mobilisation.
Ne la laisse pas mourir, la douceur de vie.
Juliette, pourquoi demeures-tu encore si belle? Le spectre immatériel de la mort serait-il amoureux? Un dernier regard, mes yeux. Une ultime étreinte, mes bras.
Et le monde est plus doux.
Anne Dufour-Mantel, que vous inspire ce que vous venez d'entendre?
J'aime beaucoup. Je trouve que c'est intéressant de mêler tous ces registres différents de la douceur. C'est une des choses qui m'a fait choisir ce thème. D'une part, et on le sent dans ses musiques et voix, c'est que c'est un terme qui désigne à la fois le spirituel et le charnel.
Il n'y en a pas beaucoup en français. Hein,
pas beaucoup, pas beaucoup. Et même dès qu'on le traduit, on oscille plus d'un côté sucré, charnel, ou d'un côté intellectuel. C'est assez rare les mots qui rassemblent, qui font vraiment une colonne vertébrale comme ça entre ces deux dimensions. Et aussi... Et je trouve que ça s'entend là. Elle est à la fois originaire et très sophistiquée, élaborée et choisie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la douceur, on y reviendra, mais elle est au principe du vivant, je crois. Il y a quelque chose comme un instinct de douceur qui permet à la vie de se poursuivre comme vie. Je le crois, du moins. Mais c'est aussi... l'aboutissement d'une culture, d'une civilisation, d'un choix. Et en effet, que serait la douceur si on y était seulement obligé? C'est parce qu'on peut la violence et parce qu'on peut la brutalité que aussi la douleur a la douceur.
On peut choisir la douceur.
Oui, on peut choisir la douceur.
Autour de la question pourquoi la douceur et pas la douleur, hein, autour de la question pourquoi la douceur, Anne Dufour-Mantel, on va tenter de définir ce que c'est, mais peut-être en commençant par dire ce qu'elle n'est pas. La douceur, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, on la confond avec une forme de mièvrerie, ou dans son Miss Guillaume nous a mis aussi quelques publicités sur un monde plus doux, autour d'un papier toilette d'ailleurs.
C'est incroyable comme elle est kidnappée dans ce qui fait vendre, enfin, de la mièvrerie et aussi de la compromission. On a l'impression que dès qu'on est dans la douceur, on est dans le compromis, dans un peu de lâcheté, un peu de gentillesse, beaucoup de faiblesse, ou alors des valeurs sucrées, faciles au fond, dont on peut parer presque n'importe quel objet pour augmenter sa valeur.
C'est doux, achetez-le, c'est doux, voilà. Ça vous fera du bien.
Oui. Et comme ça renvoie quand même à quelque chose là aussi de très archaïque, mais alors plutôt au sens négatif d'infantile, c'est-à-dire notre besoin du sucre ou du sucré, ça nous amène à un état de régression comme ça, où on se précipiterait sur cet objet sucré quel qu'il soit, même si on nous le vend comme étant une voiture, pour se protéger, s'abriter... revenir dans un espace un peu maternalo.
En gros, on nous dit, on n'arrête pas de nous dire, soyons doux, soyez doux les uns avec les autres. Vous nous faites entendre dans cet essai qu'il faut peut-être d'abord apprendre à être doux avec soi-même, ce qui n'est pas évident.
Non, pas du tout. Et ça suppose aussi de prendre conscience qu'on abrite un tyran intérieur.
Qu'on est violent. Pour pouvoir être doux, il faut accepter qu'on est violent à l'intérieur, au fond.
Qu'on vient beaucoup de la violence, du mépris, de la honte, de la haine, que ça nous habite, ça nous traverse, qu'on a été, pas seulement parce qu'on aurait été maltraité ou traumatisé, mais parce que au principe des relations humaines, ou du bébé quand il arrive avec le monde, sa mère, etc., il y a des rapports qui ne sont pas du tout que dans la douceur. Et donc ces rapports, on les intègre, on les fait nôtres, et on se maltraite très très souvent. Donc d'arriver à une sorte de douceur envers soi-même, c'est déjà d'une certaine manière extraordinairement transgressif.
transgressif. C'est-à-dire que, au fond, la supercherie, hein, un peu de notre monde, ça serait un monde, au fond, très violent ou très compétitif, mais qui nous ferait croire que, très facilement, d'un coup de vernis, on peut s'adoucir, c'est ça ?
Absolument. D'où cette idée, d'ailleurs, de la compromission. C'est-à-dire qu'au fond, il faut faire sans cesse des compromis, écouter un peu, transiger un peu sur ses idéaux, et on y arrivera dans ce monde si, comme vous dites, compétitif et d'évaluation constante. Et je crois que c'est faire deux erreurs, parce que la douceur est une intransigeance, très paradoxalement.
C'est pas facile, la violence, c'est pas donné tout de suite, où il faut le... Et c'est radical, enfin, c'est pas une compromission, c'est ça.
Voilà, il y a une radicalité dans la douceur. Alors, on peut le voir quand on a des figures comme Gandhi ou Nelson Mandela, on les voit. Mais c'est pour ça que j'ai essayé de prendre dans la littérature des figures comme le prince Nouchkine ou Billy Budd, enfin, des figures plutôt masculines qu'on n'attendrait pas nécessairement, et pas toujours les mères, et pas toujours les petits-enfants, pour montrer que les doux, d'une certaine manière, ont une forme de résistance au monde et de probité et d'incarnation d'une proximité avec soi-même qui fait surgir la violence dans l'autre, d'une certaine manière. Face à la vraie douceur, toute violence s'exacerbe.
Autour de la question pourquoi la douceur, vous avez choisi Purcell, Henri Purcell sur RFI. Welcome to all. De la question. On écoute Henri Purcell sur RFI, une fois n'est pas coutume. Welcome to all. Anne Dufour-Mantel, pourquoi ce choix de Purcell ? C'est la douceur, dans le sens où ça fait du bien à l'âme ou à nos âmes souvent un peu torturées.
Oui, je trouve. C'est aussi ces musiques de la Renaissance où il y a une très grande élaboration des voix qui se répondent. Et en même temps, toute cette subtilité est au service de quelque chose ou d'une ligne mélodique assez simple. Et je trouve que oui, ça fait beaucoup de bien.
Par où ça passe ?
À l'âme, oui, d'écouter.
Autour de la question, pourquoi la douceur ? Alors, à l'origine, au commencement de toute vie, on l'a dit, il y a la douceur. Et dans votre essai, Puissance de la douceur, Anne Dufour-Mantel, vous parlez aussi d'animalité. Je vous propose l'éclairage d'un spécialiste de la vie amoureuse et sexuelle des animaux, le biologiste Thierry Leudet, qui était récemment notre invité.
La douceur joue forcément un rôle dans le monde animal dans la mesure où elle est un des pans importants de la sexualité. On peut penser par exemple à des animaux comme le putois, le furet, qui avant même de tenter quoi que ce soit en termes d'actes sexuels, vont avoir un petit cri spécialisé, on appelle ça le hoquet, qui est un cri d'apaisement. On essaie d'abord d'apaiser l'autre pour réussir à se comprendre. Et puis les grands spécialistes de l'apaisement, ce sont bien entendu les bonobos, puisque tout l'usage de leur sexualité n'est fait que pour désamorcer des conflits, que pour essayer de réussir à bien réussir sa vie ensemble.
Donc la douceur, ça fait partie des stratégies de l'évolution.
Ça fait partie des stratégies évolutives, précisément parce qu'on a besoin dans les relations d'accepter l'autre, de le reconnaître et de lui montrer en même temps cette forme d'empathie qui va se développer au fur et à mesure que l'évolution se développe. Alors c'est moins net chez les écrevisses, hein, il faut le reconnaître, mais plus on va arriver vers des animaux vertébrés, plus on va aller dans une évolution où les relations vont compter, il est évident qu'à côté des relations agressives, il y aura des relations pour calmer, d'apaisement, hein, des relations qui vont permettre des petits câlins. Chez les singes, c'est très 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 court. Qui vont permettre de câliner l'autre et donc de lui montrer en effet que la douceur peut compter. Puis un début même de la relation, c'est l'épouillage. Dans l'épouillage, chez beaucoup d'animaux, mais chez les singes en particulier, l'idée c'est effectivement de montrer qu'en s'occupant du pelage de l'autre, on va petit à petit le calmer, un peu comme nous quand on est chez le coiffeur ou quand on subit un massage, ça nous calme, ça nous détend. Et cette détente particulière est une relation extraordinairement étroite et forte entre les individus. D'autant évidemment chez ceux qui vont utiliser la relation tactile comme une relation d'importance.
L'importance de la relation tactile, du toucher, c'est ça aussi. Et d'abord, la douceur, Anne Dufour-Mental, chez les animaux comme chez l'homme.
Oui, je crois que le toucher est absolument fondamental. Et qu'il est, il est de même, il est à la fois une, peut-être un des tout premiers rapports au monde et à l'autre.
Le bébé, quand il naît,
voilà,
qui
informe, qui maintient dans la vie, qui protège. Et en même temps, il peut y avoir une science du toucher. Enfin, l'érotisme en est une, mais je veux dire qu'il peut y avoir une très grande élaboration, sensibilité du toucher, qui est aussi une merveille.
Hein. Et, prendre soin, enfin.
Et dans le prendre soin, il y a en effet pas seulement les mots qu'on peut dire à l'autre, ou l'écoute qu'on peut en avoir, mais par exemple dans un massage, ou dans une caresse, ou dans le soin du corps. Aussi avec un enfant, c'est pas la même chose un enfant à qui l'on parle qu'un enfant qu'on touche en même temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce langage du corps qu'on oublie parfois parce que on est quand même un monde qui a beaucoup dématérialisé. Hein, les rapports, c'est beaucoup plus rapide. C'est à la fois on est en contact visuel tout le temps, mais on ne se touche pas tellement. On pourrait dire que le sens du toucher s'atrophie, enfin en tout cas est moins sollicité.
Ou alors il touche des appareils tactiles électroniques, mais il touche pas les autres.
Mais le toucher a ce site particulier chez l'humain et l'animal qu'il est immédiatement une réponse. Enfin, il est à la fois on est touché et on est touché en même temps.
D'ailleurs, c'est le mot, enfin, on parlait le mot douceur, hein, autour de la question pourquoi la douceur est à la fois divin et charnel, ou spirituel et charnel, et touché, on pense aussi, enfin, la douceur nous touche
aussi.
À tous les sens du terme.
J'avais fait une recherche dans le monde grec, par exemple, où on retrouve un peu, comme il est question là pour les animaux, d'une civilisation qui est très guerrière, qui met en avant l'honneur et qui se méfiait de la douceur comme quelque chose qui allait édulcorer un peu, qui risquait d'édulcorer les rapports humains. Et on voit que peu à peu, il y a de plus en plus de mots dans la langue ancienne grecque pour désigner la clémence, la douceur, la philanthropie, et pour s'ouvrir. Accepter cette part-là et voir qu'elle n'est pas, elle ne menace pas l'honneur, ou en tout cas, elle peut cohabiter avec de manière assez exceptionnelle. Il y a cette scène que je cite où Achille accepte que le combat et la bataille soient suspendus pour que le roi vienne chercher le corps de son fils et le roi ennemi donc et l'emmène et après la bataille reprendra, et c'est un moment, une sorte de pure humanité, on va dire,
parce que la douceur, c'est aussi, on parlait des animaux à l'instant, mais ce serait une forme de pure humanité qui parfois le relie au spirituel aussi, parce que la douceur peut aussi parler de rapports qu'on peut avoir avec le spirituel ou de figures spirituelles.
C'est aussi un rapport au monde, je dirais. Alors, quand les humains se mettent à ce diapason-là, il y a un véritable humanisme, mais je crois qu'au départ, c'est presque un rapport au manière de se... monde. C'est aussi une intelligence du monde, la douceur. C'est-à-dire que ça peut inclure le rapport avec une pierre, un espace, une atmosphère. C'est un diapason qui n'est pas seulement là dans la relation humaine, elle l'est beaucoup, bien sûr, mais elle concerne aussi notre rapport au monde.
Ce qui veut dire aussi que c'est un choix, la douceur.
Oui, oui. C'est un choix.
Parce que c'est pas le plus évident dans notre rapport au monde, justement, où on serait peut-être plus guerrier ou plus contrôleur que
Absolument.
Ça.
Et c'est pour ça qu'elle est très élaborée sur ce point de vue. Bien que, je vous disais que je la vois aussi à l'origine, c'est-à-dire quand je reprends le mot puissance du grec, il y a vraiment quelque chose d'originaire dans la protection de la vie.
J'ai tant rêvé de pouvoir voler bien au-delà du soleil, d'être toujours comme un enfant qui s'émerveille. Oh oui, j'ai tant rêvé, j'ai tant cherché à remonter jusqu'à la source du bonheur, à comprendre pourquoi soudain battait mon cœur. Oh oui, j'ai tant cherché, j'ai tant voulu connaître le pourquoi, le comment. J'ai voulu retrouver tous mes rêves d'enfant. Je n'ai jamais compris pourquoi il faut grimper si haut pour voir sa vie. J'ai tant connu tous ces matins qui n'ont ni rime ni raison, tous ces demain qui n'osent pas dire leur nom. Pourquoi l'amour s'éteint toujours au fond du cœur.
J'ai tant rêvé avec Henri Salvador sur RFI. Autour de la question « Quelle puissance de la douceur ?», rediffusion de l'entretien que nous avait accordé la philosophe et psychanalyste Anne Dufour-Mantel, tragiquement disparue à l'été 2017 en portant secours à des enfants qui se noyaient. Cette femme remarquable, psychanalyste et philosophe, auteur de nombreux ouvrages dont « L'éloge du risque », nous avait accordé un grand entretien en octobre 2013 à la parution de son dernier essai intitulé « La puissance de la douceur ». Une douceur originelle, selon elle, protectrice et indispensable dans nos vies dès le départ, dès l'origine. Et si la vie prenait sa source dans la douceur? Nous lui avions demandé de commenter cet éclairage du planétologue Francis Rocard.
La vie est quand même, personne ne le conteste, à peu près personne, la vie est liée à l'eau liquide. Et l'eau liquide est nécessaire à la vie. Or l'eau liquide, c'est des conditions qui varient entre 0 et 100 degrés. Or nous vivons sur Terre autour de 20 degrés. Donc on est plutôt dans la douceur, de ce point de vue-là. D'une part, on est notablement au-dessus du zéro, on n'est pas dans un domaine glacé, et on n'est pas non plus dans un domaine des très très hautes températures, autour de 80-90 degrés.
Anne Dufour-Mantel, la vie a besoin de douceur, de tempérance, on pourrait le dire comme ça.
Oui, de tempérance. Et c'est vrai que la douceur évoque très naturellement une atmosphère, quelque chose qui ne se situe pas aux extrêmes et qui protège la vie. C'est dans ce sens que j'employais le mot puissance au sens grec.
Oui, justement, donc, votre essai s'appelle Puissance de la douceur. Alors, c'est rare d'accoler les deux quand même. Hein.
C'est pas seulement un oxymore, c'est vraiment pour... bien sûr, il y avait l'idée de dire quelque chose de la puissance cachée de la douceur, mais aussi vraiment la puissance au sens grec, dynamis, c'est-à-dire ce qui permet à quelque chose d'éclore dans son être. Qu'est-ce qui fait qu'une chrysalide devient un papillon, qu'un embryon devient un enfant, c'est-à-dire pas ce qui se situe au commencement, tous les commencements sont des Big Bang, sont assez violents, même les naissances, mais qu'est-ce qui fait qu'un être peut perdurer dans son être? Il faut un minimum de douceur. Donc là, je pense qu'il y a un instinct de vie qui serait l'équivalent peut-être de cette température à l'échelle de l'univers ou de cette eau, eh bien, je pense que il n'y a pas d'être humain qui puisse survivre sans qu'il y ait eu ad minima, parfois pas par les parents, parfois complètement par une autre source, cette condition de douceur qui permet de se soutenir dans la vie.
C'est la douceur, et c'est la douceur qui permet d'avancer, de grandir et de se transformer. Hein. Vous parlez aussi d'une force de transformation.
Oui, d'une force de métamorphose. Mmh. C'est-à-dire, ce qui est, j'aime bien le titre de ce très beau livre de François Julien qui s'appelle Les transformations silencieuses, c'est que...
François Julien, qui est un philosophe, sinologue, qui s'intéresse aux philosophes chinois.
C'est vrai que les pensées de l'Est, enfin de l'Extrême-Orient, ont été davantage attentives aux micro-transformations continuelles du vivant ou dans la pensée. Ils sont moins dans les grandes oppositions, comme nous, dans les grandes catégories, le sujet, l'objet, la nature, la culture. Ils observent de plus près, me semble-t-il, et avec un grand génie, que nous sommes continuellement en devenir, continuellement en métamorphose, que c'est la condition de la vie.
Ils rejoignent en ça les grands scientifiques ou les physiciens qui observent que tout bouge tout le temps.
Voilà. Et il me semble que dans ce processus de métamorphose, il n'y a pas seulement cela, mais il y a de la douceur.
Pour que cette métamorphose puisse se passer, donc elle se voit pas, qu'elle serait cachée aussi.
Voilà, qui serait l'élément qui... Parce qu'il y a un élément de choc, on le voit bien dans une métamorphose, il y a un élément...
Dur,
violent, enfin en tout cas de... Mais il y a aussi une constance, ce qui fait qu'il y a un reste, un fil d'identité. Et là, quelque chose est protégé, est accompagné, on peut dire.
La douceur, elle est, vous dites, aussi il y a en germe, en puissance.
Puissance, voilà. Et qu'elle accompagne le développement. Elle est aussi une intelligence symbolique, c'est-à-dire que la douceur, c'est aussi un plan symbolique. Quand l'intelligence fait appel à quelque chose qui n'est pas de la réactivité, de la violence.
Oui, parce qu'il faut s'arrêter deux secondes pour ne pas réagir, ne pas être dans la violence.
Qu'elle passe sur un plan symbolique, qu'elle admet la primauté du symbolique sur simplement les effets de réalité. Il y a là aussi de la douceur.
Donc la douceur se nicherait plus qu'on ne le croit. On l'a dit en première partie, dans tout ce qui est tactile, dans le toucher, dans le sensible. Mais elle se nicherait aussi...
Dans l'intelligible, dans l'intelligence.
Alors que souvent, la douceur, on peut dire c'est doux, c'est un peu bête.
Dans le politique, dans la résistance, dans la force, au fond. Elle est une force qui refuse, d'une certaine manière, de jouer le jeu de la force face à la force. Elle est une possibilité d'une réponse radicalement autre et nouvelle et décalée par rapport à la force brutale.
Voilà pourquoi c'est parfois très dérangeant. On parlait de Gandhi en première partie d'émission, ou d'une forme de douceur qui peut susciter presque de la violence.
Ah oui, je parlais de ces cas terribles dans les familles où si les parents ou un parent est très 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 perturbé, violent... schizoïde, celui qui va être le plus laminé, voire parfois tué, c'est l'enfant doux. C'est pas l'enfant difficile, parce que l'enfant doux est insupportable à qui a beaucoup de violence, puisque il ne renvoie que d'une certaine manière de la compréhension, de l'amour, de l'attachement, et ça devient. Il y a des écrivains qui ont très bien su dire cela, donc Dostoïevski, mais il y a aussi la figure de célèbre de Bartleby, c'est-à-dire celui qui dit « je préfère ne pas », très doucement, et qui peu à peu va faire dérailler tout le système autour de lui par une simple et très douce insistance du « ne pas ».
La puissance de la douceur. Hein. Autour de la question pourquoi la douceur et pourquoi ça nous fait du bien, par où ça passe. Allez, on arrive au doux, au sucré. Je vous propose un nouvel éclairage gourmand vu par le chercheur de l'INRA Loïc Briand qui travaille lui sur les récepteurs du goût sucré. On l'écoute.
Alors il y a un récepteur qui est très important pour détecter la saveur sucrée. Donc c'est un seul récepteur qui permet de détecter de nombreuses molécules sucrées. Donc ça c'est un point qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a finalement beaucoup de molécules qui ont un goût sucré. Donc bien sûr, il y a les édulcorants, il y a les sucres naturels. Puis il y a d'autres molécules que l'on soupçonne moins qui ont un goût sucré, comme par exemple le plomb.
Le plomb a un goût sucré.
Oui, c'est assez étonnant, mais le plomb a un goût sucré. De la même façon que le chloroforme a aussi un goût sucré. Et donc moi, ce que j'étudie, c'est comment finalement un seul récepteur peut être capable d'être activé par toutes ces molécules qui génèrent un goût sucré.
Et ce récepteur, il est présent dès l'origine, enfin je veux dire dès le nourrisson, puisque les petits quand même, ils ont ce goût sucré tout de suite. Est-ce qu'on peut dire ça, Loïc Briand ?
Oui, donc en fait, si on prend un bébé, qu'on lui dépose une goutte d'eau sucrée dans la bouche, il va tout de suite percevoir. Donc c'est un sens qui est vraiment très important. Et on pense qu'il y a une fonction physiologique qui est derrière, qui est celle de détecter des aliments qui sont riches en énergie. Et à l'opposé de cette saveur, on a le système de détection des molécules amères, donc l'amertume, et dont la fonction physiologique est de détecter des molécules qui sont potentiellement toxiques. Et donc là, on a besoin d'un système qui est très très sensible. Et nous sommes équipés de 25 récepteurs à l'amertume qui permettent de détecter des centaines de molécules amères.
C'est-à-dire qu'on a, si je vous suis bien, 25 récepteurs à l'amertume et un récepteur pour le sucré.
Exactement. Et en plus, il y a une grosse différence de sensibilité, c'est-à-dire globalement, on est peu sensible aux molécules sucrées. En fait, il faut de nombreuses pierres de sucre dans le café pour percevoir une molécule sucrée. Alors qu'il suffit d'une pointe de molécule amère pour détecter. Il y a vraiment une différence qui est énorme, énorme. Bon, si on revient sur l'image du nourrisson, qu'on lui dépose une molécule amère, au lieu d'avoir le sourire qu'on a avec le sucré, là, on va avoir un dégoût, une grimace. Donc toujours dans l'idée de se protéger contre des molécules toxiques.
Et pour vous, en tant que chercheur qui travaillez donc sur ces molécules et sur les récepteurs du goût sucré, si je vous dis pourquoi la douceur et pourquoi est-ce qu'on aime ça comme ça et pourquoi est-ce qu'on recherche ça comme ça, pourquoi est-ce que c'est lié au circuit de la récompense aussi ?
Derrière, en fait, c'est la fonction physiologique, ce qu'on pense. C'est-à-dire que l'intérêt de notre organisme va rechercher une source d'énergie. Ensuite, ce qui a été montré par des études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, c'est que les zones qui sont activées, par exemple, si on prend un chocolat, qu'on adore, eh bien, on va avoir une zone dans le cerveau qui va être activée, qui correspond à des zones associées au plaisir. Et en fait, physiologiquement, on a intérêt à rechercher des sources d'énergie. C'est donc associé au plaisir et donc à la récompense.
Pourquoi la douceur ? En point de vue physiologique, la réponse est évidente. Anne Dufour-Mantel, vous voulez réagir à cet éclairage du chercheur Loïc Briand de l'INRIA à Dijon, donc qui travaille sur les récepteurs des goûts sucrés et amers.
J'ai vraiment appris quelque chose là. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de récepteurs pour l'amer.
Et aussi peu pour
le sucré. Mais aussi, je trouve, alors ce qui coïncide vraiment avec ce que j'ai voulu montrer, c'est le rapport entre la douceur et l'énergie. La molécule de sucre amène une très grande quantité d'énergie, indispensable à la vie. Et nous avons un récepteur qui est immédiatement associé au plaisir et à la satisfaction. Et qui donc à la fois donc procure du plaisir, mais aussi sert au développement de la vie de manière immédiate et que le bébé enregistre comme tel. Donc,
oui, le sucre, c'est vraiment ça qui va le faire grandir, développer son cerveau. Oui. Voilà, c'est l'énergie et dans
puissance,
le sucre. La puissance
voilà,
est dans la douceur.
Oui.
Oui, là, c'était le chercheur de l'INRA qui nous le disait. En même temps, on retrouve aussi, alors on l'a dit, le goût de l'enfance. Est-ce que la psychanalyste que vous êtes dirait aussi que ce goût pour la douceur ou pour le sucré, ça serait quoi ? Une sorte de paradis perdu qu'on voudrait retrouver ? Parce qu'on pense quand même au premier moment de la vie, après la naissance, mais au premier moment de la vie, c'est tout doux contre le sein maternel.
Je n'aurais pas une vision aussi idyllique. Je pense que la vie, de ce qu'on en a approché bioneurologiquement, psychanalytiquement, psychiatriquement, c'est assez violent, ce qui se passe dans un nouveau-né. Je pense que un chercheur, je précise un neurobiologiste et non pas un psychanalyste, me disait, je crois que les intensités que ressent le nourrisson de faim, de soif, d'anxiété face à l'inconnu et le type de mouvement qu'il fait à la minute, aucun adulte pourrait supporter. Donc je pense qu'on minimise souvent à travers une image d'Épinal le théâtre d'opération, si j'ose dire, qui est un nouveau-né et le saut qu'il doit faire à tous les niveaux pour entrer dans le langage, pour entrer dans le monde, pour apprivoiser tout ce qui est tout le temps inconnu et que donc là aussi...
C'est dur, c'est pas doux.
La douceur est ad minima quelque chose d'absolument essentiel.
Pour adoucir un peu.
Pour accompagner, venir avec ce choc du monde d'une certaine manière. Alors, néanmoins, je dirais que dans l'enfance, il y a des extases de douceur. C'est-à-dire, l'enfance a ceci d'extraordinaire d'être une sensibilité. Avant d'être un sentiment, c'est une sensibilité absolument exacerbée. tout prend un relief étonnant et unique d'une certaine manière. Et donc, la douceur aussi, et je pense que ça imprègne le cerveau, l'expérience.
Et qu'on veut le retrouver.
On voudrait retrouver cette fraîcheur, cette force de
l'expérience. Autour de la question, pourquoi la douceur, est-ce que c'est féminin, la douceur, pour vous, Anne Dufour-Mantel? Dans votre essai, hein, Puissance de la douceur, vous mettez en avant des figures justement masculines pour partir un petit peu ailleurs, mais...
On l'a associé au féminin, je crois, à cause de l'enfantement et du nouveau-né, avec donc quelques raisons, c'est-à-dire cette image de la protection totale, de l'inconditionnalité d'une certaine manière, du rapport, en tout cas quand il est au meilleur mère-bébé. Aussi parce que c'était des valeurs qui, en Occident, ont été dévolues aux femmes. C'était la guerre pour les hommes et la chasse. Et là, je parle d'une imagerie très archaïque, mais qui est en nous, qui perdure quand même.
Et la dame, les femmes qui est dans la douceur.
Voilà, de la réceptivité, de la protection de la vie, du foyer. Donc, ça nous habite encore. On a beau avoir fait plusieurs révolutions et on est sorti d'une certaine manière. Les femmes sont évidemment sorties de ces catégories-là. Mais je crois que ça... En tout cas, il faut prendre acte de cet imaginaire-là.
Il y a ça aussi. Allez, une voix féminine à la fois douce et puissante. Nina Simone sur RFI. Et pour vous, Anne Dufour-Mantel, « I want a little sugar in my bowl ».
Radio France Internationale.
I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't I want some sugar in my bowl. You've been acting different. So they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl.
Nina Simone sur RFI qui veut un peu de sucre dans son café autour de la question pourquoi la douceur? Notre invitée, la psychanalyste et philosophe Anne Dufour-Mantel, auteur de Puissance de la douceur. Ce n'est pas un hasard, Anne Dufour-Mantel, si vous aviez envie d'entendre la voix de Nina Simone, c'est la puissance qui déménage et la douceur en même temps.
Ah oui, je trouve qu'elle conjugue vraiment ces deux qualités absolument. Elle est à la fois enveloppante, avec un timbre magnifique, et en même temps, on sent toute la puissance de sa voix qui peut comme ça aller dans les aigus ou les graves.
Et là, c'est la puissance de la douceur au féminin, mais qui rejoint, vous le citez en exergue d'ailleurs, le philosophe Marc Aurèle, une douceur invincible.
Oui, c'est cette qualité de la douceur, je disais, de pouvoir être... dans une rectitude spirituelle et une force de résistance ou même de proposition qui est le contraire du compromis, justement.
Absolument, on a raison quand on est dans la douceur. Enfin, quand on arrive à être dans la douceur, a priori on a plus raison.
Enfin, non, pas toujours. Enfin, ça suffit pas d'être dans la douceur pour avoir raison, puisque parfois on ne peut pas ou il ne faut pas l'être. Mais je dirais que il y a des attitudes de douceur qui sont dans une droiture et une force que n'aurait pas à ce moment-là quelqu'un armé ou qui ferait céder par d'autres moyens.
Autour de la question pourquoi la douceur, je vous propose un dernier éclairage, c'est celui de l'agriculteur philosophe Pierre Rabhi, co-auteur d'un ouvrage collectif « Se changer pour changer le monde ». Avec douceur, Pierre Rabhi.
La douceur est une valeur, surtout dans un monde aujourd'hui où la violence, les valeurs, disons, masculines sont quand même exaltées beaucoup, au détriment de valeurs qui sont effectivement liées peut-être au féminin.
Vous voyez ça comme ça, la douceur pour vous, ce serait plus lié au féminin?
Non, c'est-à-dire qu'il y a de la douceur dans le masculin, mais je trouve que le monde tel qu'il est, dans ces violences, dans ces compétitions, dans toutes ces choses-là, manque singulièrement quand même de douceur. On ne peut pas dire qu'on soit dans la douceur. Et la douceur est pour moi une valeur extrêmement importante puisqu'elle est la traduction de l'amour, quoi. Que ce soit le couple, que ce soit à l'égard de l'enfant, que ce soit à l'égard de la vie, la douceur est quand même une valeur fondamentale de transformation de la société et de l'être humain et de la transformation de la société par l'être humain.
Dans un des livres auxquels vous avez collaboré, Se changer, changer le monde, oui. Ça pourrait être justement peut-être une piste aussi, la douceur?
Oui, elle est incluse en quelque sorte dans quelque chose qui est pour moi très important, c'est la puissance de l'amour, la puissance de ce qui découle en quelque sorte d'un sentiment positif à l'égard de la vie, à l'égard des autres. Voilà, c'est ce sentiment de bienveillance, de compassion, de tout ce qu'un être humain peut ressentir quand il s'agit de sa relation à lui-même aussi, à lui-même, aux autres. Je pense que la douceur est un facteur d'évolution très très important.
La douceur comme facteur d'évolution, vous voulez réagir, Anne Dufour-Mental, à cet éclairage de Pierre Rabhi?
Oui, je suis très d'accord avec lui. C'est pour ça aussi que j'ai choisi dans le livre à la fois de parler de la capacité de révolution de la douceur, parce que je pense que les révolutions peuvent commencer à pas de colombe.
À pas de colombe, c'est joli ça.
Mais qu'il y a un ferment de révolution dans la douceur, et aussi mêler des impressions, des rappels de toutes ces expériences de douceur dans lesquelles on s'enracine,
oui,
en
parce
tant
que
qu'être humain.
C'est à la
ce
fois
que j'appelais la fête sensible, parce que je crois que c'est vraiment en se reliant constamment dans à la fois cette mémoire et cette expérience-là qu'on peut manifester les puissances de la douceur de la manière la plus forte ensuite. Si on a besoin de résister ou de changer le monde, on va capter, on va retourner dans ces lieux de douceur pour y trouver la force, justement.
Et en français, on dit souvent en douce, faire les choses en douce. Comme si la douceur, justement, vous parlez de résistance, elle était aussi un peu clandestine.
Il y a une clandestinité de la douceur, parce qu'elle ne peut pas toujours apparaître ou se dire comme telle. Il y a en même temps un rapport à la vérité très
comment ça,
très fort, parce que je crois qu'on ne peut pas se méprendre sur la douceur. Il y a
une fausse douceur, ça passe pas. C'est
on
ça
peut la pervertir. Il y a beaucoup de fausses douceurs qui sont mises
en scène,
voilà,
aujourd'hui.
Ou en pub, voilà. Mais quand on en fait l'expérience, je crois que personne ne peut se tromper sur ce qui est, et tellement c'est à la fois justement, là encore, charnel et spirituel. Il y a une vraie réunification de l'être dans l'expérience de douceur qui met au contact d'une vérité et d'une unité de l'être.
Est-ce que vous l'avez éprouvé ça, vous, personnellement, ou c'est aussi en vous confrontant à vos patients? Vous êtes psychanalyste, vous cherchez à la fois du côté de la philosophie et du côté de la psychanalyse, et du côté, on a l'impression, effectivement, de l'expérience, des sens. Hein,
Oui, je l'ai beaucoup éprouvé. Je crois que c'est une valeur, une expérience que je chéris particulièrement. Mais il est vrai aussi que j'entends beaucoup, beaucoup son manque. Le manque de la douceur dans les récits de vie de mes patients.
Plus criant, à votre avis, aujourd'hui que qu'hier?
Oui, surtout.
Mais c'est le manque d'amour.
Je dirais plus fort, mais moins criant. C'est ça qui m'inquiète. C'est que ça n'est pas repéré comme tel. Comme si on arrivait à un tel point de manque qu'il n'y avait même plus conscience du manque.
C'est-à-dire, on croit qu'on manque de contact, d'amour,
d'autres choses, mais pas de ça. Et alors qu'en fait, c'est là qu'on manque énormément. Mais ça suppose, pour que ça apparaisse comme manque, qu'on puisse d'abord y croire, qu'on puisse se relier à des expériences, justement, enfant, qu'on aurait faites. Et parfois, c'est tellement douloureux de s'y relier qu'on préfère le dénier, au fond.
Mais c'est notre monde qui est, au fond, vous le disiez au début de l'émission, devenu si violent, qui ne laisse plus la place à ça?
Pas si violent. On pervertit la langue, le langage. On pervertit beaucoup. C'est-à-dire qu'on vient dire sur quelque chose de très violent, on vient dire exactement la réalité inverse. On désigne un mot par son contraire. Et donc, on escamote tout le temps. Et ça...
Quand des ouvriers sont mis au chômage, on dit que c'est un plan de restructuration. Voilà. Enfin, ce genre de choses, par exemple.
Exactement. Et je pensais justement à cet exemple-là. Et je me disais, voilà, quand on vous annonce un plan de restructuration, comment se relier à la réalité foudroyante d'être mis au chômage? Comment on fait quand non seulement il y a cette réalité dure, mais qu'on vous la dénie immédiatement dans une fausse douceur? Donc je dis, c'est revenir à la douceur, c'est d'abord prendre acte qu'elle manque et ensuite retrouver en soi là où elle nous a fondés.
On ne peut rien contre la puissance de la douceur, si je reprends le titre de votre livre. C'est vraiment une puissance à la fois qui nous fait grandir, on l'a compris, nous développer. Mais vous parlez de résistance, ce serait une nouvelle forme de lutte possible.
Je pense qu'elle peut être une nouvelle forme de lutte, qu'on a encore beaucoup à découvrir de tous ces possibles.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art.
La douceur est invincible. C'est avec Chet Baker que nous refermons cet hommage à la philosophe et psychanalyste Anne Dufour-Mantel, tragiquement disparue à l'été 2017, dont la vie et l'œuvre continuent de nous inspirer. À lire notamment L'éloge du risque, mais aussi ses chroniques, parues dans Libération, publiées chez Rivage Payot, qui n'ont pas pris une ride, ou encore L'ami, la mort, le fils, vibrant hommage rendu par Jean-Philippe Deminck à celle qui a sauvé son fils au prix de sa vie. Demain, nous vous proposons de réécouter une voix remarquable et singulière qui continue de nous inspirer, celle du penseur iconoclaste François Roustan, philosophe et hypnothérapeute, autour de la question « Pourquoi laisser se faire ?» Tout un programme choisi pour vous en cette saison estivale de rediffusion avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Chers amis auditeurs libres et curieux, surtout restez ouverts à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Valentine's Day.